RFI minuit à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous d'une demi-heure consacré à l'actualité française. Hier soir, François Bayrou, entendu par la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire. Cela a duré longtemps, 5 heures, et cela a été tendu. Aujourd'hui, la commission a dit son agacement devant l'attitude adoptée par le Premier ministre qui a remis en cause son travail. On voit ça avec Aurélien Devernois dans un instant. Plusieurs centaines de personnes se sont, elles, rassemblées ce jeudi en France pour demander plus de moyens pour la protection de l'enfance. 400 000 enfants auraient ainsi besoin de la protection des pouvoirs publics. À suivre le reportage de Sylvie Coffi. À Cannes, le festival projette Dossier 137 de Dominique Moll, un film qui revient sur la crise des Gilets jaunes qui avait déchiré la France en 2018. Mais un des acteurs a été écarté de la promotion du film en raison d'un signalement pour des violences sexuelles présumées.
24 heures en France.
Cannes toujours, dans une dizaine de minutes, nous avons rendez-vous avec la sénégalo-malienne Aïssa Maïga qui joue dans le film « Promis le ciel », film tunisien sur la condition des migrants subsahariens. Nous entendrons ensuite le comédien Régis Nkissi, auteur d'un livre témoignage sur les violences qu'il a subies dans un lycée de banlieue parisienne. Ce vendredi, c'est la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie.
RFI.
L'audition de François Bayrou aura duré plus de 5 heures. Le Premier ministre était entendu hier par la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire. Les débats houleux se sont concentrés sur le dossier de l'école Bétarame de Pau, le fief politique du Premier ministre. Pied à pied, le chef du gouvernement s'est défendu sur son rôle politique et personnel à l'époque, remettant en cause le travail de la commission et suscitant son agacement. Aurélien Devernois.
Une demi-journée après la fin de l'audition de François Bayrou, Fatia Kelouachi, présidente de la commission des affaires culturelles, dont dépend la commission d'enquête, est encore furieuse.
Il a remis en cause les rapporteurs, il a remis en cause ma présidence. 2 mois d'audition, plus de 140 personnes auditionnées. François Bayrou a été auditionné comme tous les autres.
La stratégie de défense du Premier ministre a en effet visé le sérieux du travail mené depuis plusieurs mois, ce que déplore également la co-rapporteuse, la macroniste Violette Spielboot.
Je crois en pouvant dire que j'appartiens au bloc central, que tout au long de ces auditions, j'ai gardé mon intégrité, mon indépendance.
Tout en affichant son désaccord avec l'interrogatoire mené par son co-rapporteur, l'insoumis Paul Vanier.
C'est une défense extrêmement vigoureuse d'un homme politique qui a été attaqué dans son intégrité par mon collègue Paul Vanier.
Particulièrement visé par François Bayrou, qui l'accuse de mener un procès politique, celui-ci dénonce des mensonges et une minimisation des faits par le Premier ministre.
Le Premier ministre est empreint d'une culture de la violence sur les enfants, qu'il a à nouveau manifesté en relativisant devant nous des gestes qu'il a décrits comme des gestes éducatifs, des claques, des gifles.
Un mélange de combats politiques et de règlements de compte qui a parfois rendu inaudible l'audition de François Bayrou, au détriment de l'objet de la commission, lutter contre les violences en milieu scolaire.
Et pendant son audition, François Bayrou apprenait la création d'une haute autorité sur les violences faites aux enfants, avec pour champ d'action les établissements scolaires, les associations sportives et culturelles et la sphère familiale. Ce jeudi, la CIVISE, la commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants, s'est dit prête à endosser ce rôle et elle souligne que tout cela est cohérent avec les propositions qu'elle a elle-même remises au gouvernement en mars dernier. C'est dans ce contexte que plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce jeudi en France pour demander plus de moyens pour la protection de l'enfance. Manifestation à Paris, Toulouse et Lille à l'appel du collectif des 400 000. 400 000, c'est le nombre d'enfants qui, selon les estimations, ont besoin de la protection des pouvoirs publics. L'objectif des rassemblements de ce jeudi, c'était d'alerter sur le manque de moyens alloués à ceux qui œuvrent pour aider ces jeunes en danger, sur le manque de dispositifs aussi. Sylvie Coffi s'est rendue à la manifestation de Paris sur l'esplanade des Invalides.
Moyens financiers insuffisants, familles d'accueil en sous-effectif. Pierre-Alain Sartou, porte-parole du collectif des 400 000, alerte sur la situation de ces enfants qui ont besoin d'être protégés par l'État.
C'est des enfants qui parfois ne sont pas assez protégés, c'est-à-dire qu'en réalité vous avez des juges des enfants qui vont à la suite d'un signalement dire que cet enfant doit être mis à l'abri, par exemple placé dans un foyer, dans une maison d'enfants à caractère social, et faute de temps, faute de moyens, faute de places disponibles, il va s'écouler plusieurs semaines, plusieurs mois avant qu'il puisse véritablement être mis hors de danger.
Bonnet vissé sur la tête et longue doudoune, Quentin Pinto da Silva témoigne.
J'ai connu des violences de la part de certains éducs. J'ai parfois même alerté les éducateurs. Ils m'ont toujours dit oui, on va s'en occuper, ils n'ont jamais rien fait.
placé dès ses 4 ans dans des foyers, il y a passé toute sa jeunesse.
Une colère à rapport à l'État qui n'a pas su me protéger comme il aurait dû le faire. J'ai honte parce que je me dis comment on peut laisser des enfants souffrir dans des foyers sans même qu'on agisse. On est souvent catégorisé comme des dossiers, comme des numéros et non comme des individus uniques.
Encore fragile, ce jeune adulte âgé aujourd'hui de 21 ans garde de nombreux traumatismes.
Sylvie Coffi, Yannick Agnel, bientôt jugé pour viol et agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Il est renvoyé devant la cour criminelle du Haut-Rhin. Yannick Agnel, c'est une ancienne gloire de la natation française, double champion olympique du 200 et du 4x100 mètres aux Jeux de Londres en 2012. Et il est mis en cause pour avoir eu une relation avec la fille de son ex-entraîneur, âgée de 13 ans au moment des faits, alors qu'il en avait 24. Christophe Diremzian.
L'affaire couvre une période allant du 31 décembre 2015 au 31 août 2016, mais l'enquête n'avait été lancée qu'à l'été 2021, après une plainte de Naomi Horter, fille de Lionel Horter, entraîneur national reconnu. Début 2016, Yannick Agnel vit une période creuse de sa carrière et tente de se relancer à Mulhouse sous la conduite de Lionel Horter, qui l'héberge. C'est le début d'une relation avec l'adolescente, qualifiée d'amoureuse, consentie et sans la moindre emprise par le nageur, version totalement démentie par la jeune fille devant la brigade des mineurs et non crédible, estimait alors la procureure de la République, qui parle de contrainte morale en raison de la différence d'âge. Le 9 décembre 2021, Yannick Agnel est interpellé à son domicile parisien, placé en garde à vue à Mulhouse, puis mis en examen et placé sous contrôle judiciaire 2 jours plus tard. Extrêmement discret depuis, il a été confronté une dernière fois à son accusatrice en juillet 2024. Le 7 mars dernier, le parquet avait requis sa mise en accusation devant les assises. Yannick Agnel a encore la possibilité de faire appel de cette décision. Pour les faits reprochés, il encourt jusqu'à 20 ans de prison.
Plus de bracelets électroniques pour Nicolas Sarkozy. L'ex-chef de l'État bénéficie d'une libération conditionnelle depuis mercredi. Il a pu en faire la demande parce que depuis janvier, il est âgé de 70 ans. Au final, Nicolas Sarkozy n'aura gardé le bracelet électronique qu'un peu plus de 3 mois. Sa prochaine échéance judiciaire, ce sera le 25 septembre, jour du délibéré de l'affaire libyenne dans laquelle l'accusation a requis contre lui 7 ans de prison. On va se rendre maintenant au procès de Majid Nemad devant la cour d'assises de Paris. Cet ancien porte-parole du groupe rebelle salafiste Jaïch al-Islam est poursuivi pour participation à un groupe en vue de la préparation de crimes de guerre et complicité de crimes de guerre, le tout en Syrie, entre 2013 et 2016. Ce jeudi, la parole était aux parties civiles. La cour a entendu Mazen Darwish, président du SCM, une ONG syrienne à l'origine des nombreuses plaintes contre des membres du régime de Bachar al-Assad, comme de celle déposée contre Jaïch al-Islam en France, qui a permis l'arrestation de l'accusé, Laura Martel.
À l'appui de sa plainte, le SCM a produit de nombreux documents et témoignages pour étayer les accusations d'exécution sommaire, détention arbitraire ou torture portées contre Jaïch al-Islam, un groupe dans lequel Majdi Nema avait un rôle important selon Mazen Darwish. En tant que porte-parole, il avait un rôle actif puisque la propagande permet aussi bien d'enrôler des mineurs que nier et blanchir des crimes, estime le militant. Autre preuve de son statut de cadre selon lui, la participation de Majdi Nema à des réunions avec les commandants militaires des autres factions. Mazen Darwish insiste, le régime de Bachar al-Assad a commis les pires crimes. Mais malheureusement, la révolution syrienne a servi de couverture pour des crimes horribles, dit-il, et Jaïch al-Islam a instrumentalisé la révolte légitime d'opposants pour prendre le contrôle de la route orientale et accaparer ses richesses au prix de graves exactions. Or, on ne peut pas trier les victimes, un crime est un crime, quel que soit son auteur, d'où l'importance de ce procès, souligne-t-il. Un procès c'est toujours impossible à tenir en Syrie, insiste le militant, face à la défense qui conteste la compétence française. Les garanties d'une justice impartiale ne sont pas encore réunies et Jaïch al-Islam est encore très forte. Les gens ont peur, ils sont menacés. Regardez combien de témoins ont renoncé à venir, même à ce procès en France, conclut-il.
Laura Martel. Et puis Paris va déposer ce vendredi une plainte contre Téhéran devant la Cour internationale de justice. Plainte pour violation du droit à la protection consulaire. Les deux Français, Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, sont détenus depuis 3 ans en Iran. Et Paris accuse Téhéran de les maintenir en prison dans des conditions proches de la torture et de ne pas leur accorder une protection consulaire adéquate.
24 heures en France. Christophe Paget.
La France est le pays qui attire le plus d'investisseurs en Europe pour la 6e année consécutive. C'est ce qu'indique le baromètre EY consacré à l'attractivité économique de la France en 2025. Mais ce classement masque une réalité un peu plus, disons, nuancée. Car la situation française est à l'image de celle de l'Europe. Le nombre de projets annoncés a reculé de 15% par rapport à 2023. Marc Lhermitte, associé chez EY, auteur de ce baromètre.
C'est une performance qui est très convoitée, très enviée par nos principaux compétiteurs. Nous sommes devant le Royaume-Uni et l'Allemagne en nombre de projets annoncés. C'est important de le dire, ne boudons pas notre plaisir. Néanmoins, 15% de baisse de ces investissements et surtout, moins d'emplois apportés par ces investisseurs étrangers. C'est très important parce que l'emploi est un des objectifs que nous poursuivons en allant chercher des entreprises dans tous les pays du monde, dans nos bassins d'emploi où il y a des restructurations, où il y a eu des restructurations industrielles. On a besoin de ces nouveaux investisseurs dans tous les secteurs d'activité pour venir recréer les emplois. Donc on va dire que la France attire l'intérêt, la curiosité, mais pour des projets qui sont moins créateurs d'emplois.
Marc Lhermitte par les restructurations. On part maintenant dans le nord de la France où ArcelorMittal confirme qu'il veut investir 1,2 milliard d'euros sur son site de Dunkerque dans un four électrique. Un gage de sa volonté de décarbonation et donc de sa volonté de rester sur le site. Mais par contre, il écarte tout abandon de son plan de suppression de plus de 600 emplois en France, 636 exactement, pour, affirme ArcelorMittal, rendre leur compétitivité au site. Fumisterie, répond la CGT du site de Dunkerque. On passe au Festival de Cannes avec aujourd'hui l'hommage à la photographe palestinienne tuée par un missile israélien à Gaza. Fatima Hassouna apparaît dans Put Your Soul on Your Hand and Walk, Mets ton âme dans ta main et marche. Un documentaire réalisé par l'iranienne Sepideh Farsi, projeté dans la soirée, dans une section parallèle du festival. Pour ce qui est des films en compétition, il y avait un film français aujourd'hui, Dossier 137 de Dominique Moll, qui revient sur la crise des gilets jaunes qui avait déchiré la France en 2018. Mais la montée des marches s'est faite sans l'un des acteurs du film écarté par le délégué général du festival en raison d'un signalement pour des violences sexuelles présumées. RFI minuit 12 à Cannes. Cannes toujours. On s'intéresse maintenant à un film Promis le ciel d'Erij Seiri, un film tunisien sur la condition des migrants subsahariens, un film qui a créé l'événement mercredi soir en ouverture de la section Un certain regard. Il suit le destin de trois femmes, une pasteur, une étudiante et une mère en exil, qui accueille une petite fille rescapée d'un naufrage. Sophie Torlotin a rencontré une des actrices du film, la sénégalo-malienne Aïssa Maïga, qui est aussi, vous le savez, réalisatrice.
Bonjour Aïssa Maïga.
Bonjour.
Dans Promis le ciel, vous incarnez Marie, anciennement Aminata, ex-journaliste installée en Tunisie. Elle est pasteur d'une église évangélique, alors que le climat est de plus en plus lourd et tendu pour les sans-papiers subsahariens. La réalisatrice Erij Seiri s'est appuyée sur un travail d'enquête. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à accepter ce rôle ?
Oui, ça fait partie des choses qui m'ont donné envie. C'est qu'Erij, la réalisatrice, est anciennement journaliste d'investigation. Et donc, elle a vraiment une démarche d'enquête très profonde, une enquête au long cours, qui repose notamment sur une immersion dans le milieu qu'elle veut représenter. Et puis, elle m'a expliqué qu'elle travaillait beaucoup avec des improvisations, avec des scènes qu'on tourne, qu'on retourne au gré du montage qu'elle fait en parallèle du tournage. Et ce côté atelier de fabrication du film m'a beaucoup plu, en plus évidemment du sujet lui-même.
Et ce sujet, donc la situation de plus en plus difficile hein, pour tous ces migrants qui viennent de Côte d'Ivoire, de Sénégal et d'ailleurs d'Afrique de l'Ouest en Tunisie, vous étiez au courant, vous connaissiez ?
Oui, j'ai été très marquée il y a quelques années par les ratonnades qui ont eu lieu en Tunisie suite à un fait divers. Il y a eu comme ça, comme une vague de violence extrême avec des migrants qui ont été tués et puis beaucoup aussi qui ont été arrachés véritablement et transportés dans une zone qui est une zone absolument désertique de laquelle on ne ressort pas vivant, sans aide. Et en fait, ce niveau d'inhumanité, de cruauté m'avait vraiment dévastée. Et c'est vrai que faire des films sur ces sujets-là, je trouve que c'est une manière de redonner des visages et une dignité à des personnes qui sont effacées.
Alors Marie, votre personnage, Aïssa Maïga, elle accueille des femmes. Et puis au début du film, une toute petite fille, Kenza, qui est rescapée d'un naufrage.
Oui.
Marie est vraiment dans l'accueil et l'entraide.
Oui, Marie, c'est vraiment une femme qui met sa foi au service des autres. Elle est pasteur. Et lorsqu'on lui amène cette petite fille, d'abord, il y a l'idée qu'il faut retrouver sa famille. La petite Kenza va dévoiler des choses qu'elle a vécues. Il se trouve que cet enfant a véritablement, à un moment, commencé une traversée. Donc ce qu'elle raconte dans le film, c'est pas du scénario, c'est des choses qu'elle a vécues. En fait, c'est plus que du cinéma.
Alléluia.
Je déclare une année de saut, une année d'avancement, une année de progrès, une année de lumière sur toi.
En fait, ça devient de l'art augmenté, quoi.
Il y a notamment une scène de prêche.
Oui.
Ça, c'est une scène qu'on travaille en particulier.
Bon, moi, je vais dire la vérité, hein. Eri, je me donne les textes à la dernière minute. Donc moi, je dors plus. J'ai adoré aussi parce que j'étais face à des figurants qui jouaient leur propre rôle. On était avec une vraie communauté évangélique qui m'a adoubée hein, dès le départ. Ils m'ont dit, tu sais, ça ne peut pas être un hasard. Tu as été choisie pour jouer une pasteur. Donc pour nous, tu es pasteur Marie. Donc ils m'appelaient maman pasteur. Ils ne m'appelaient plus Aïssa. Vraiment, j'étais maman pasteur. Et en fait, ce degré d'adhésion à la réalité de ce qu'on tournait de la part des figurants, ça m'a porté parce que ils entendaient vraiment du prêche. Ils n'entendaient pas un texte dit par une actrice. Pour eux, c'était une occasion supplémentaire de prier. Donc, c'était vraiment proche du cinéma vérité.
Aïssa Maïga, merci.
Merci.
Tu es venue ici tenter ta chance. Chaque jour est une bataille.
Aïssa Maïga avec Sophie Torlotin, on rappelle le titre du film « Promis le ciel » d'Erige Seiri. Ce vendredi, c'est la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. En France, les pouvoirs publics ont choisi de tourner leur campagne de prévention vers les jeunes, et en particulier vers l'école. Collégiens et lycéens peuvent appeler le 3018, une ligne d'écoute dédiée. Et c'est aussi pour lutter contre ce harcèlement qu'il a lui-même subi que le comédien Régis Nkissi, originaire de Seine-Saint-Denis, a publié il y a quelques semaines le récit de son parcours « Comment Marilyn m'a sauvé la vie ?» Le témoignage d'un adolescent passionné de mode et de cinéma, victime de violences dans son collège d'Aulnay-sous-Bois. Amélie Beaucourt a rencontré Régis Nkissi.
Là, on est devant le collège dans lequel j'ai fait ma scolarité au collège Claude Debussy.
C'est la première fois depuis 10 ans que Régis Nkissi remet les pieds devant son établissement scolaire, là où le cauchemar a commencé.
Bah, mon quotidien au collège était fait d'insultes, de moqueries, de regards. Et en fait, c'est ça qui fait le plus mal, c'est les regards. On sent qu'on n'est pas le bienvenu, qu'on n'est pas accepté.
Les insultes homophobes se mettent à pleuvoir. L'adolescent soigné paye une passion pour la mode considérée comme suspecte aux yeux de ses camarades.
Je renvoyais une image de quelqu'un de très à l'aise, très confiant, bien dans sa peau, qui arrive au collège avec une veste en fourrure et un nœud papillon. Je suis congolais, donc la mode coule dans mon sang, je peux rien y faire. Donc mon amour des vêtements vient de ces sapeurs qui m'ont éduqué, quoi, qui ont fait mon éducation. Il y a un truc qui fait que ça clashait avec le côté jogging basket et ça mettait ces personnes mal à l'aise. Chaque cantine, je mangeais des fois pratiquement 80% du temps, j'étais tout seul.
Cette solitude, il la raconte à 25 ans dans un livre qui s'ouvre sur ces mots. C'est décidé, ce soir, je vais mourir. J'ai 14 ans et je vais mettre fin à mes jours. Une tentative de suicide dont il n'avait jamais parlé à personne. S'il a couché son histoire sur le papier, c'est pour adresser un message à ceux qui vivent la même chose.
Vous n'êtes pas seul, ça va passer. Ça fait mal maintenant, ça va faire mal après aussi, mais on s'en remet. Le méchant nuage gris finit toujours par passer. Toujours s'accrocher pour ouvrir les rideaux et voir que, en fait, le soleil est là, quoi.
C'est aussi avec ce récit qu'il a choisi de révéler à sa famille son homosexualité.
Moi, j'ai grandi dans une famille avec beaucoup d'amour. Mais quand même, il y a ce pan de la religion où même moi, comme je suis quelqu'un de croyant, j'ai eu cet endroit de... Les moments avec Dieu où j'ai dans une grande prière de « Mais attends, mais pourquoi, si tu choisis tes enfants, pourquoi tu m'as mis, moi, l'homosexualité dans ce truc-là » Et en fait, Dieu n'est qu'amour. Mais est-ce que eux vont l'entendre ?
Aujourd'hui, Régis Nkissi, star montante du cinéma français, s'est débarrassé du masque qui l'a longtemps fait suffoquer. Son visage, le vrai, est maintenant familier des passants qui s'arrêtent pour le complimenter.
Ça va et toi ?
Oh là là,
ma star !
J'ai envie de te craquer, mais moi, t'en fais.
Un reportage d'Amélie Beaucourt.
Le journal des Outre-mer.
En Polynésie, le parti indépendantiste Tavini a remis sur la table la question de la réinscription du Fénouan, du pays, sur la liste des pays à décoloniser. Benoît Ferrand.
Bonsoir. 12 ans après cette réinscription, le parti d'Oscar Temaru déplore le manque d'engagement de la France et l'inexistence, dit-il, d'une quelconque avancée dans ce domaine. Reportage Sandroli.
Anthony Géros, le numéro 2 du Tavini Huiratira, la France persiste dans une posture de déni. Elle refuse, déplore-t-il, de reconnaître les résolutions des Nations Unies, pourtant soutenues par d'autres États membres.
Parce que le dialogue n'est pas ouvert et il y a un déni total des autorités de l'État à reconnaître la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays non autonomes. Et alors que, en fait, cette reconnaissance va nous permettre d'engager un dialogue constructif pour préparer les éléments de décolonisation qui vont nous permettre d'arriver au référendum, à l'acte d'autodétermination.
Oscar Temaru, figure historique du mouvement indépendantiste, pointe du doigt la Nouvelle-Calédonie. Là-bas, l'État a engagé un processus d'autodétermination structuré et transparent. En Polynésie, cet engagement est inexistant.
Je n'ai pas de leçon à donner à l'État français. Mais ce que nous demandons, c'est le respect. Le respect de l'esprit de la lettre de la Charte des Nations Unies dont la France est signataire. Et c'est ce que demandent les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes soutenus par près de 190 pays. La France est isolée, elle est toute seule. On ne peut pas tenir tout le temps. C'est pas possible, ça.
Alors que la venue prochaine du ministre des Outre-mer suscite de nombreuses attentes, les interrogations demeurent. Sera-t-il réellement à l'écoute des aspirations du peuple polynésien? Le 17 mai, une journée de témoignages est organisée pour faire entendre les voix qui refusent l'oubli et l'inaction.
Direction Paris, interpellé par le président du groupe Liot à l'Assemblée nationale sur l'abrogation du Code noir, le Premier ministre François Bayrou a assuré découvrir cette incongruité juridique. C'était ce mardi, lors des questions au gouvernement. Il s'est engagé à présenter un texte au Parlement pour abroger l'ensemble des édits publiés en 1685, encadrant l'esclavage.
Nous croyons tous qu'il avait été aboli et je vous remercie d'avoir éclairé la représentation nationale et le gouvernement sur ce sujet. Si le Code noir n'a pas été aboli en 1848, il faut qu'il le soit. Il faut que nous ayons la volonté, la capacité, le choix de réhabilitation historique, de réconcilier la République avec elle-même. Et donc je prends l'engagement au nom du gouvernement qu'un texte actant l'abolition du Code noir sera présenté au Parlement et je l'espère voté à l'unanimité. En tout cas, c'est la volonté du gouvernement.
À l'île de la Réunion, une épidémie peut en cacher une autre. La fièvre, la fatigue et les douleurs articulaires ne sont pas seulement les symptômes du chikungunya, mais aussi de la leptospirose, bactérie transmise par des eaux souillées, par les urines des rats, et qui peut s'avérer mortelle. 80 cas signalés depuis le début de l'année à La Réunion, d'où cette opération mercredi de distribution de kits raticides à Saint-Denis. Olivier de la Richaudie.
Depuis que le cyclone Garance a lessivé les ravines, les rats ont tendance à se rapprocher des habitations. Chaque kit permet d'intervenir sur 1000 mètres carrés des sachets de poison accompagnés d'un support. Frédéric Bureau, le directeur de la FDG Don, le groupement de défense contre les nuisibles.
On insiste, nous, sur le fait d'avoir du raticide qui soit mis dans des postes d'abattage ou dans des tuyaux PVC qui permettent à ce qu'on puisse lutter contre les rats, mais pas de causer d'autres problèmes éventuellement aux animaux qui sont dans la cour ou encore aux oiseaux qui peuvent être ce qu'on appelle des dommages collatéraux.
Les contaminations à la leptospirose sont liées aux rats, c'est vrai, même s'il n'est qu'un intermédiaire. Cette année, l'Agence régionale de santé communique moins sur les rongeurs et davantage sur les risques liés au contact avec la terre contaminée.
L'homme se contamine en touchant la terre, pas en touchant le rat.
Béatrice Bresson est ingénieure au service de lutte antivectorielle.
Le rat a peut-être contaminé le sol, mais il y a un ou deux mois, on ne voit pas le rat. On va jardiner, on n'a pas mis ses gants, on a des blessures au niveau des mains. Et la bactérie va rentrer dans le corps. Et c'est vraiment par la terre, par la manipulation de la terre, qu'on va se contaminer.
Ce risque concerne aussi les activités de pleine nature comme le canyoning, la pêche ou la randonnée. Il augmente au contact de l'eau après les fortes pluies ou quand on marche pieds nus et même en savate sur un sol boueux.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Benoît Ferrand, bonne soirée.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Benoît Ferrand parlait des rats. Eh bien, le Conseil Santé, lui, se penche sur les serpents venimeux. Que faire en cas de morsure? La réponse avec Caroline Paré et son invité.
Professeur Jean-Philippe Chipot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite à l'Institut de recherche pour le développement. Quel conseil dans le domaine de la prévention des morsures de serpents venimeux? Comment faire finalement pour ne pas être mordu?
Alors le problème, c'est que la morsure est liée à la rencontre homme-serpent et ce n'est pas dû au hasard. Le serpent est là pour une raison précise, hein, soit il chasse, soit il s'accouple, enfin, et l'homme aussi parce qu'il travaille dans les champs. Donc c'est assez difficile à prévoir, mais être chaussé déjà avec des bonnes chaussures, ça limite considérablement le risque. Alors il y aura bien une morsure, mais c'est la chaussure qui prendra. Donc et puis avoir des airs très bien dégagés, de façon à ce que le serpent ne puisse pas se cacher, ne puisse pas échapper au regard.
Si on est mordu, c'est quoi la première réaction, les premières réactions?
Alors, il n'y a pas de geste de premier secours, en fait. Ce qu'il faut, c'est aller le plus rapidement possible à l'hôpital, parce que le temps joue contre le patient et il faut faire l'antivenin le plus vite possible.
Qu'est-ce qu'on fait quand on ne connaît pas l'espèce du serpent qui a mordu?
Aucune importance, parce que les antivenins sont polyvalents, c'est-à-dire qu'ils couvrent toutes les espèces venimeuses de la région. Quand je dis région, c'est au sens large. C'est, par exemple, toute l'Afrique subsaharienne. Donc les antivenins qui sont présents dans les hôpitaux couvrent ces espèces-là.
Merci beaucoup professeur Chipot. Aujourd'hui dans Priorité Santé, la santé mentale, grande cause nationale pour cette année 2025 en France. Les objectifs prioritaires, promouvoir la santé mentale alors que la psychiatrie en France traverse une crise persistante et inédite. On donne la parole à des acteurs soignants, associations de patients. Et c'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel, à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Caroline Paré, c'est la fin de 24 heures en France. Merci à Fabrice Viollet à la réalisation et à Mickaël Ponge à la rédaction en chef. Dans quelques instants, Afrique Soir, mais d'abord, comme tous les soirs, la Bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones gagne 272 points et revient à 42 323. L'indice du Nasdaq, lui, cède tout de même 34 petits points et termine à 19 112. Les nouvelles de la conjoncture américaine confirment les craintes de nombreux économistes. La consommation, qui a été dopée au premier trimestre par des achats avancés d'automobiles, d'équipements de sport et d'autres produits importés, marque le pas. Au mois d'avril, les Américains ont voulu acheter, en fait, avant les hausses de prix déclenchées par les fortes augmentations de droits de douane. Si bien qu'au mois d'avril, les ventes de détail, on l'apprend aujourd'hui, ne grimpent que de 0,1%, alors qu'elles avaient encore bondi d'1,7% au mois de mars. Il s'agit là, peut-être, du ralentissement effectif de la consommation que laissait présager la détérioration de la confiance des consommateurs américains depuis plusieurs mois. La direction de Walmart, le numéro 1 américain de la distribution, confirme en tout cas que les premières hausses de prix liées aux droits de douane vont se manifester dans les prochains jours et seront encore plus visibles le mois prochain. C'était, semble-t-il, anticipé, car le rendement du T-bond à 10 ans ce soir retombe à 4,45. L'euro avance à 1,1184. Le baril américain de pétrole chute de plus de 2%, tombant en dessous de 62 $, et ce en réaction aux propos du président Trump, selon lesquels un accord est proche entre les États-Unis et l'Iran sur un encadrement du programme nucléaire de Téhéran. Un tel accord préparerait la levée de sanctions qui handicapent les exportations iraniennes de pétrole. Le Dow Jones aujourd'hui s'offre 0,7%, le Nasdaq s'effrite de 0,2%.
Demain, sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Les bronzes royaux d'Angkor, un art du divin. C'est une exposition événement au musée Guimet avec un chef-d'œuvre de l'art khmer, tout juste restauré en France, le grand Vishnu couché du sanctuaire du Mébon. Les commissaires de l'exposition seront avec nous pour en parler.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI. Pourquoi RFI dit ça ?
Quelle démocratie ?
Julia Trangeval.
À RFI, nous défendons les principes démocratiques. Une volonté de mainmise de l'Occident pour certains de nos auditeurs. Mais si nous parlons de démocratie autant sur nos antennes, c'est parce qu'elle est bien souvent menacée ces jours-ci un peu partout dans le monde.
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Julia Trangeval. Tous les vendredis à 19h41 et en podcast sur RFI.fr.